Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire, consacrée aujourd'hui à Charlotte de Belgique. Née en 1840, Charlotte est la fille du roi Léopold Ier et de la reine Louise, fille de Louis-Philippe. Belle, intelligente et volontaire, l'avenir de Charlotte s'annonce glorieux. Son mariage à 17 ans avec l'archiduc Maximilien d'Autriche, frère de François-Joseph, ne fait que confirmer les attentes placées en elle. Mais là s'arrête le conte de fées, devenue, aux côtés de son époux, impératrice du Mexique. Sa vie tourne à la tragédie. Au Mexique, Maximilien est fait prisonnier, jugé, condamné et fusillé. Et entre-temps, Charlotte, revenue en Europe défendre son empire, sombre dans la folie. À 27 ans, elle devient la maniaco-dépressive la plus célèbre d'Europe, et cela pendant près de 60 ans jusqu'à sa mort en 1927. Pour évoquer ce destin tragique, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Paoli, qui vient de publier chez Perrin l'impératrice Charlotte, le soleil noir de la mélancolie. Dominique Paoli, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir au micro de Canal Académie.
Et moi, je suis très heureuse d'y venir.
Je vous présente, vous êtes journaliste, historienne et spécialiste des monarchies européennes.
Tout à fait, avec une petite spécialisation dans les Orléans, les Bourbons-Orléans, pour être plus précise, à la fois français et belge.
Voilà, alors on va en revenir plus précisément à Charlotte. Alors de nombreuses biographies lui ont déjà été consacrées et j'ai envie de dire, qu'apportez-vous de nouveau ?
Je pense que votre première question est parfaite parce que je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas eu de l'inédit. De toute façon, c'est un principe de base pour mes livres, mais là, ça se justifiait totalement parce qu'on a quand même beaucoup écrit sur Charlotte, entre autres le prince Michel de Grèce qui est le dernier en titre d'un livre, disons, qui faisait progresser le sujet. En ce qui me concerne, en travaillant sur les origines du général Végan, j'avais découvert des documents inédits, mais que je n'avais pas pu me procurer à l'époque. Et là, j'ai mis 5 ans pour les avoir, ils sont aux États-Unis. J'ai donc mis 5 ans pour en avoir les photocopies. Et là, dès que j'ai eu ces documents, je me suis dit que je pouvais me lancer dans une nouvelle biographie, parce que ça éclairait, entre autres, et ça c'est très très important, cette fameuse partie que vous évoquiez presque tout à l'heure, entre son retour en Europe et le moment, c'est-à-dire donc l'été 1866, et 1867, en juillet, où elle rentre, donc elle est récupérée par sa famille belge et où elle rentre en Belgique. Et sur ces mois, on avait dit qu'elle était enfermée, séquestrée par sa famille autrichienne, sa belle famille autrichienne, ce qui n'était pas le cas. Elle attendait Maximilien. Bon, on l'avait un peu forcée à être quand même un petit peu sous-clée, mais pas vraiment complètement sous-clée. Mais c'était Maximilien qui lui avait dit « je viendrai te chercher ».
Alors, on va revenir au début de Charlotte, je veux dire. Alors déjà, je précise que le portrait que vous dressez de Charlotte est vraiment un portrait très psychologique. Vous pénétrez, je dirais, au cœur de sa folie, quelque part.
Oui. Alors ça, c'est une chance extraordinaire de pouvoir le faire avec des documents. Ce ne sont pas des interprétations, c'est livrer un bâti à partir de documents qui se l'échelonnent tout au long de sa vie. Et qui nous, parce que à partir du moment où elle n'écrira plus, c'est une grande épistolière, donc déjà elle confie à sa famille proche seulement ses impressions profondes. Donc déjà là, par moment elle cache aussi les choses. C'est très variable. Mais de ce fait, on sait quand même, par exemple, comment a éclos son goût de la peinture et des livres. Elle le dit à sa grand-mère, la reine Marie-Amélie, elle le dit à son père. Donc, tout au long de ces lettres, déjà, on a des éléments et on voit aussi la pointe d'exaltation qui monte,
qui apparaît très tôt,
oui,
en fait.
Et qui, d'ailleurs, à mon sens, en arrive à un tel stade au moment où il faut décider de partir pour le Mexique, avec l'acceptation de la couronne du Mexique. Là, elle a vraiment une décision qui n'est pas totalement équilibrée, bien que son père lui ait dit qu'il fallait qu'elle le fasse. Mais il y a déjà, on sent déjà un déséquilibre dans cette décision, qui était quand même une folie, hein. Déjà en soi, pour employer ce mot.
Mais alors, en fait, un des premiers événements marquants, bien sûr, dans la vie de Marie-Amélie, c'est la perte de sa mère qui meurt lorsqu'elle a 10 ans.
C'est ça.
Et son tempérament va complètement changer à ce moment-là.
Oui, elle a certainement en elle une fragilité génétique. Tous les médecins, tous les spécialistes s'accordent à le dire. C'est la psychose maniaco-dépressive dont était atteinte Charlotte est une rencontre entre une fragilité génétique et des déclencheurs, des éléments déclencheurs, c'est-à-dire des drames. Or, elle, évidemment, elle en a eu son compte, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est à travers ça, si vous voulez, qu'on peut définir, on peut retrouver sa maladie et en analyser la progression.
Donc oui, à 10 ans, elle perd sa mère.
Alors, à 10 ans, elle perd sa mère, effectivement. Et ça, c'est un choc. Et pour une enfant fragile, nerveusement, c'est un choc, paraît-il, décisif. Donc,
Et sur le moment, on n'a pas bien mesuré en fait les séquelles laissées par ce choc.
Personne ne s'est rendu compte de ce que ça représentait. Sa grand-mère s'est bien rendu compte qu'elle était un petit peu exaltée, mais ça s'arrête là.
Et même après les années qui séparent donc la mort de sa mère et son mariage avec l'archiduc Maximilien, son père va être très présent finalement à ses côtés.
Oui, il est à moitié présent parce que bon, il a une maîtresse à laquelle il consacre beaucoup de temps. Il a ses affaires politiques, c'est un grand roi. Mais dès qu'il a un moment, c'est pour Charlotte. C'est vrai que c'est sa préférée. Après avoir été un petit peu déçu de ne pas avoir encore un fils, il s'est tout à fait accommodé de Charlotte et il l'a d'ailleurs élevé comme un garçon.
Mais finalement, vous faites apparaître dans votre livre qu'elle reçoit une éducation un peu masculine, oui, ce qui aura de lourdes conséquences par la suite.
Oui, parce qu'il en fait une tête politique. Et il dit d'ailleurs, il écrit à ses proches, c'est dommage que ce n'ait pas été un petit monsieur.
Parce qu'il place tous ses espoirs en Charlotte.
Ah, tout à fait.
Et donc, dès qu'elle a 16 ans, il va envisager de la marier.
Ah oui, alors là.
Donc, l'affaire du mariage, il lui propose finalement deux candidats.
Voilà.
Pierre V, roi de Portugal, et l'archiduc Maximilien.
Mais elle a déjà.
Et elle a déjà choisi.
Oui, elle a déjà choisi, en fait, tout en essayant de se raisonner. Elle a quand même choisi parce que elle n'aime pas le portugais. En revanche, elle est très séduite par le côté beau parleur et charmeur de Maximilien.
De son côté, Maximilien semble moins romantique que Charlotte.
Beaucoup moins romantique.
Et plus séduit par la dot que par la princesse en elle-même.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, lorsque Maximilien sera mort, Léopold II, le frère de Charlotte, fera tout pour récupérer l'essentiel de la dot et l'héritage de Léopold Ier.
Alors finalement, Maximilien et Charlotte se marient. Et comment se passent leurs premières années de mariage ?
À la fois bien et mal, bon, ils sont en Italie. L'Italie est un choc pour Charlotte, un choc artistique, elle veut. Elle qui est d'une curiosité insatiable, lui aussi d'ailleurs, Maximilien, est complètement époustouflée par l'Italie, par les paysages, par les peintures, par les églises, par tout ce qu'on peut imaginer trouver en Italie. Elle a une passion pour le lac de Côme où ils ont une résidence. Et son talent de peintre est décuplé et vraiment épanoui par cette Italie. Et elle l'écrit dans ses lettres. Elle donne ses impressions, elle livre ses impressions d'artiste. Et ça, c'est magnifique. Malheureusement, ça va tourner très vite, puisque ce sont les fameuses guerres d'Italie de Napoléon III, l'unité italienne qui est en marche, et la Lombardie-Vénétie, dont ils sont vice-roi et vice-reine, est perdue très rapidement. Donc, ils y sont restés à peine 2 ans.
Alors, comment Charlotte va-t-elle vivre, justement, cette perte de son trône ?
Très mal. Et c'est une blessure qui ne se refermera jamais, ni pour l'un, ni pour l'autre. Alors, comme ils se sont fait construire, enfin, c'est lui qui s'est fait construire ce superbe château de Miramar, qui est magnifique, à côté de Trieste. Bon, il s'y réfugie, il s'y installe. C'est pas d'ailleurs tout à fait terminé. Ils ne le verront jamais terminé, ni l'un ni l'autre. Mais il s'y installe et il mène une vie de voyage, un peu petit quand même, un petit peu tristounette, hein, sur leur rocher, parce que c'est en à pic sur la mer. Mais très rapidement, Charlotte sent bien qu'il y a quelque chose qui leur manque, et quand on leur propose la couronne du Mexique, évidemment, la tentation est grande.
Elle saute sur l'occasion. Et finalement, n'est-ce pas elle qui a poussé son mari vers cette couronne ?
Oui. Lui est un éternel hésitant. C'est un rêveur, un marin. C'est pas du tout quelqu'un de stable. Et en fait, lui a envie, parce que il sent bien que du côté de François Joseph, son frère aîné, avec lequel il ne s'entend guère, il n'aura jamais de grande responsabilité en Autriche, alors il est tenté d'accepter. Et par ailleurs, il va s'arracher à Miramar, ce qui ne lui le temps de guerre non plus. Il est vraiment complètement déchiré par la décision à prendre. Et elle, comme je le disais tout à l'heure, elle a cette exaltation qui la pousse. Et finalement, une exaltation aussi pour lui. Elle dit voilà. Il mérite ce trône.
Ça sera une occupation pour Maximilien.
Voilà, il lui faut, il mérite ce trône.
Donc, finalement, ils partent au Mexique. Et comment se passe l'installation là-bas?
C'est abominable, parce que c'est un pays quand même qui, à l'époque, disons, présente de graves lacunes. Je ne dirais pas, bon, la France a essayé d'établir une certaine paix. Je ne pense pas qu'elle y soit réellement arrivée. Quand ils débarquent, eux, à Veracruz, c'est un accueil extrêmement mitigé, même froid. Après, ça va mieux. À Mexico, ça se passe bien. Mais, bon, bah, la première nuit, ils sont obligés de s'enfuir des lits qu'on leur a préparés parce que c'est plein de cancrelats, de puces, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est dans Mexico même, dans le Palais Royal. Alors, ils vont aller s'installer au-dessus, à Chapultepec, où là, ils seront beaucoup mieux. Et où, bien entendu, Maximilien commence à faire des dépenses, comme il a fait partout, à Venise, à Miramar, partout où il est passé. C'est quelqu'un qui aime le décor, la construction, enfin, il aime toute l'architecture. C'est un anesthète, Maximilien, d'une certaine manière.
Alors, Charlotte va beaucoup s'investir dans son rôle de souveraine,
oui,
et de représentation.
Oui, parce que lui n'aime pas trop la représentation, justement. C'est assez curieux. Et elle, au contraire, elle a appris ça, c'est son devoir. On se dit que si elle avait été impératrice d'Autriche, elle aurait représenté la couronne d'une façon absolument magnifique. D'ailleurs, sa belle-mère Sophie, quand elle est arrivée à la cour, lui a donné la préférence sur l'impératrice Élisabeth, ce qui n'a pas arrangé les relations entre les deux belles-sœurs, d'ailleurs. Mais donc, au Mexique, oui, elle s'est beaucoup investie. Elle était régente parce que très tôt, Maximilien a commencé à partir en voyage à l'intérieur. Et chaque fois, c'est elle qui le remplaçait.
Puisque oui, vous précisez d'ailleurs, déjà en Italie, hein, qu'une des caractéristiques de ce couple, c'est qu'elle s'enferme dans un monde d'illusions, refuse d'accepter la vérité telle qu'elle est, et que lui, plus réaliste finalement, en profite pour prendre la poudre d'escampette.
Il a passé son temps à la fuir. Parce qu'il faut quand même préciser que leur nuit de noces a été un ratage complet. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est allé vraiment jusqu'à la consommation absolue. Et donc là, physiquement, il la fuit. Il a une immense affection pour elle, une immense admiration. Il se repose beaucoup sur elle politiquement, mais il y a là vraiment un problème dans la vie conjugale.
Qui pèse beaucoup d'ailleurs sur, sur l'état psychique de
Ils n'auront pas d'enfants ensemble, alors que Maximilien, très probablement, aura lui un fils de son côté, ce dont il se montrera très fier, parce qu'il dira, ben, vous voyez, ce n'est pas moi qui ne peux pas avoir d'enfants, c'est elle.
Alors finalement, c'est au cours du séjour au Mexique que Charlotte va montrer les premiers signes de...
Le climat, évidemment, s'y prête. Hein, et c'est surtout, à mon sens, la première grande crise masquée, hein, pas du tout publique, qu'elle aura, c'est quand elle va visiter les ruines d'Uxmal. À l'époque, elle remplace Maximilien pour un voyage au Yucatan, lui doit rester à Mexico pour les affaires. Et là, elle veut absolument découvrir, parce que toujours sa curiosité, elle veut découvrir les ruines d'Uxmal. Mais à l'époque, ça ne se visite quasiment pas. Il y a quelques Français qui l'ont fait, Désiré Charnay entre autres. Mais c'est un endroit extrêmement oppressant. C'est de la semi-jungle. Donc, elle va faire cette visite, ce qui va quand même beaucoup la fatiguer. Et elle va sentir cette oppression. Et là, brusquement, il y a la première trace du moment où elle dit... Je sens du poison dans l'air. C'est à ce moment-là que commence sa psychose de l'empoisonnement. Alors, est-ce qu'il y a eu empoisonnement réellement? Ça, on n'en est pas sûr. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'analyse qui puisse le confirmer. Mais il est possible qu'on ait quand même mis dans sa nourriture quelque chose qui ne lui convenait pas aussi. Ça peut être une convergence d'éléments. Hein. Ça n'est pas... On est sûr de rien. De ce dont on est sûr, c'est qu'elle, elle parle d'empoisonnement.
Alors très vite, la situation de Maximilien et de Charlotte se dégrade au Mexique.
Oui.
Et donc atteint son paroxysme lorsque Napoléon III annonce le retrait des troupes françaises qui étaient jusqu'à présent présentes au Mexique. Et là, Charlotte se dit que la seule solution pour tenter de les sauver, c'est d'aller en Europe et de faire revenir Napoléon III sur sa décision. Et c'est au cours de ce fameux voyage en Europe que là, sa folie éclate au grand jour.
Voilà, alors d'abord, elle a perdu son père, fin 65. Elle a perdu sa grand-mère, Marie-Amélie, en mars 66. Donc, elle a eu deux très gros chocs. Et là, on l'a envoyée se reposer hors Mexico plusieurs fois parce que, justement, les médecins sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas très rond. Et c'est là qu'on aussi, on a très probablement mis du bromure dans son café à son insu. Elle s'en est aperçue plus tôt. Alors, si justement, en s'en apercevant, elle a aussi pu penser que c'est un empoisonnement. Donc, tout ça, ça fait un mélange. Effectivement, en juillet 66, mais à toute vitesse, elle décide de partir pour l'Europe. Il y a déjà eu des ambassades, mais elle se dit qu'elle est la seule à pouvoir plaider. Elle part. Et là, quand elle arrive à la cour de Napoléon III, Napoléon III qui n'est d'ailleurs pas en très bonne santé, qui redoute sa venue.
Donc c'est Eugénie d'abord qui
l'envoie. Oui. Et puis ensuite, elle va à Saint-Cloud. Elle va voir donc Napoléon III, et c'est le petit prince impérial qui descend l'accueillir et la prendre par la main au bas des escaliers de Saint-Cloud. Il y a une très jolie scène là. Et là, alors évidemment, ça se passe très très mal. Elle est dans un état, elle est surexcitée. Mais on en a rajouté dans les récits. Il y a plusieurs récits de cette entrevue et il y a des mauvaises retranscriptions de certains témoignages qui font qu'on n'est pas très sûr du degré jusqu'où c'est allé. On dit qu'on lui a servi une orangeade brusquement, une dame d'honneur est entrée avec une orangeade et qu'elle a dit « Ah non, 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 c'est du poison » et puis finalement elle aurait bu l'orangeade. Mais tout ça, il faut le prendre vraiment avec beaucoup de précautions.
Toujours est-il qu'elle n'arrive pas à infléchir la décision de Napoléon III. Donc là, elle décide d'aller plus loin et de se rendre auprès du pape au Vatican.
Voilà, parce que c'est son dernier recours. D'abord, il y a le concordat qui n'a jamais été conclu. Et ensuite, elle veut lui demander aussi de l'aide. Donc elle va au Vatican, elle est reçue, donc elle passe par Miramar. Ensuite, elle se rend au Vatican à la fin du mois de septembre 1866. Et là, elle est reçue d'abord officiellement, puis le pape fait la visite protocolaire de retour. Mais Pie IX ne promet rien. Et ça mijote dans sa tête pendant 2-3 jours, et puis un beau jour, elle est toujours donc à Rome, évidemment, et elle débarque, il n'y a pas d'autre mot, elle débarque au Vatican, et là, on n'ose pas, une impératrice, on n'ose pas lui interdire l'accès. Je continue à dire, elle débarque chez Pie IX, et alors là, il y a des scènes absolument extraordinaires. Aidez-moi, ma suite veut m'empoisonner, faites quelque chose pour moi.
Donc elle ne mange plus rien. Bon, et surtout, ça lui vaudra, c'est la seule femme ayant dormi au Vatican.
Oui, et elle s'en vantera plus tard auprès de son médecin de Miramar, justement. Très contente d'elle-même, en fin de compte.
Donc là, sa folie éclate au grand jour. Voilà. Sa famille est prévenue. Donc à ce moment-là, son frère, le comte de Flandre, qui se rend en Italie pour rencontrer sa sœur.
Oui, il est en Italie, en Italie. Donc on essaie de le joindre pour qu'il arrive à Rome dès qu'il peut. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais là, pour lui, ça a été un moment terrible. Terrible.
Terrible. Et quelle va être la réaction de la famille? Vont-ils...
Alors, la réaction, c'est de suivre le conseil des médecins. Il y a eu plusieurs médecins qui s'occupaient d'elle à Rome. Et c'est de dire, il faut qu'elle retourne chez elle à Miramar. Parce que de toute façon, elle est encore très compliquée. Elle est née belge, elle est devenue autrichienne par mariage, elle est devenue mexicaine. Puis, elle est donc... Quand elle est rentrée en Europe, elle a quand même encore un pied dans les États autrichiens. Enfin, c'est très compliqué. Elle ne récupérera sa nationalité belge, d'abord autrichienne comme l'année suivante, et belge qu'après la guerre de 14. Mais ce qui est certain, c'est que quand elle rentre à Miramar avec son frère, elle est dans un tel état qu'on ne peut pas la laisser vivre normalement. Et alors, elle fait une fixation sur les clés. C'est extraordinaire.
Et donc là, finalement, elle va être enfermée, même si vous n'aimez pas, je sais ce...
Oui, c'est-à-dire...
C'est exagéré.
Oui, elle n'est pas séquestrée.
Elle n'est pas séquestrée.
Elle est enfermée dès qu'il y a un moment propice, on l'enferme, mais... Et bien entendu, elle en voudra quand même toute sa vie à ceux qui l'ont enfermée. Mais en même temps, elle sera très liée avec le médecin qui s'occupe d'elle et qui est un de leurs amis, d'ailleurs. Mais par moments, elle sait très bien qu'il faut qu'elle soit dans un endroit de paix, de repos. Et c'est le petit château qui avait servi à les abriter pendant la construction du Grand.
Alors là, elle va rester pendant un peu plus d'un an.
Voilà.
Puis Maximilien...
Oui, pas tout à fait. Non, une dizaine de mois. Il faut quand même dire une chose, si on en a le temps, c'est que c'est un endroit idyllique. Ce Castelletto, c'est son nom, ou Gartenhaus en allemand, est un endroit absolument ravissant. C'est un endroit de rêve. Je peux vous dire que si tous les gens qui ont des problèmes étaient enfermés là, ce serait...
Mais elle était quand même coupée du monde là-bas.
Mais elle le voulait, elle le voulait.
On lui triait sa correspondance, donc on lui cache entre autres la mort de son mari quand
même. Ah oui, mais c'est beaucoup plus tard. Mais en fait, oui, c'est vrai, on trie sa correspondance pour lui éviter les chocs, les énervements, pas par envie de
mais
de
sur
de
le
la
conseil
couper.
Des médecins d'ailleurs.
Toujours sur le conseil des médecins.
Et d'ailleurs, a-t-elle été bien soignée?
Alors, le docteur Gillet, qui l'a prise en charge, médecin de marine, ami du couple impérial, qui l'a prise en charge à ce moment-là, n'était pas un spécialiste, mais il a fait vraiment œuvre de psychanalyste, car il lui était extrêmement dévoué. Et il habitait le Castelletto lui aussi, et il vivait avec elle quasiment, enfin dans une autre pièce bien sûr, mais il vivait avec elle et il conversait avec elle en permanence, il prenait ses repas avec elle. Et le fait est que c'est une véritable psychanalyse, sans savoir qu'il le faisait bien sûr.
Et d'ailleurs une période d'apaisement.
Ah oui, il l'a complètement apaisée. Au bout de quelques mois, elle était presque revenue à la normale, mais pas totalement, avec toujours le risque que ça recommence.
Et donc, finalement, la famille belge a décidé de venir chercher Charlotte.
Oui, alors, pour des motifs, bien sûr, à la face du monde et du monde royal, c'est bien pour dire que l'affection que tout le monde a pour Charlotte les oblige à la faire revenir et à la récupérer, puisque Maximilien n'est plus là. Mais il y a aussi, il y a surtout chez Léopold II, comme je le disais tout à l'heure, le désir de récupérer l'argent.
Oui, alors il faut préciser d'ailleurs que Léopold II était lui-même marié à une archiduchesse
d'Autriche.
Yes, et donc c'est elle qui se rend auprès de sa belle-sœur pour la ramener en Belgique.
Parce que le comte de Flandre a dit non, moi je ne recommencerai pas une telle épreuve. Donc c'est effectivement Marie-Henriette d'Autriche, qui donc est la femme de Léopold II, qui va aller la récupérer et qui se débrouille très bien. Elle est entourée de 3 ou 4 personnes qui sont très très sérieuses, très coopératives. Bon, il y a toute une série d'épisodes parce que un des proches de Charlotte et de Maximilien, le comte de Bombelles, ne veut pas la laisser partir. Mais enfin, de fil en aiguille, elle passe par Vienne où elle s'entend avec François-Joseph. Et de fil en aiguille, elle arrive quand même à la récupérer et à la ramener en Belgique. Mais cela dit, à ce moment-là, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne lui a pas encore annoncé que Maximilien est mort. On ne le lui dira qu'en janvier de l'année suivante.
Et comment va-t-elle réagir?
Alors, on a demandé au père Deschamps, qui était son confesseur, qu'il avait fait faire son baptême, sa communion, tout ça. Enfin bon, l'homme d'église qui s'est le plus occupé d'elle. Comme il lui a raconté ça en lui expliquant que Maximilien avait eu une fin extrêmement héroïque, ce qui est tout à fait vrai, elle a au fond bien admis. Alors après, il y a un diplomate belge qui est venu la voir et qui lui a encore raconté des choses. Là, elle a été un petit peu plus choquée. Mais elle a demandé à son oncle Joinville, qui donc avait le talent de peintre que vous lui connaissez, de lui dessiner un memento. Et ce très joli memento où on voit Maximilien dans une barque qui est en train de couler avec le drapeau mexicain, etc. Elle en a été absolument ravie, elle l'a envoyé à toute l'Europe. Et pour elle, au fond, c'était « mon mari est mort dans l'extrême dignité ».
Donc voilà, nous sommes en 1868.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc l'impératrice Charlotte est en Belgique et là, elle va y rester, donc, comme je le disais en introduction, jusqu'à sa mort en 1927.
Oui.
Alors elle va d'abord vivre avec la famille royale.
Voilà, elle a tout un passé. Elle est d'abord installée à Tervuren, dans le château d'été. Puis elle revient à Laeken parce qu'il n'y a pas de chauffage à Tervuren. Elle y passe un certain temps, puis là meurt son neveu, le seul fils de Léopold II. Le petit Léopold, qui est quand même un choc malgré tout pour elle aussi.
Et là, toute la famille, oui, ça rejaillit sur elle.
Ah oui, ça rejaillit quand même sur elle, surtout que ça donne une atmosphère très, très triste à la cour. Et en plus, elle a quand même éternellement des crises de dépression. Et surtout, alors ça va monter à tel point en 1869 qu'on va la réinstaller à Tervuren parce que là, ça prend une tournure érotomaniaque qui, évidemment, n'est pas compatible avec la présence d'enfants. Et elle a ses nièces, là, elle a Stéphanie, etc. Donc, qui épousera Rodolphe d'Autriche, encore une fois.
Oui, les alliances belges Habsbourg n'ont pas très bien réussi.
Pas vraiment. Et donc, là, elle a, si vous voulez, une période de paroxysme.
Oui, où elle se prend pour un homme, d'ailleurs.
Ah, d'ailleurs, elle fait. Alors, elle s'était prise d'un officier français, Charles Loisel, et il y a un phénomène complet de mimétisme avec lui, et elle signe, et on voit les signatures sont dans le livre, d'ailleurs. C'est absolument hallucinant. Elle se prend pour lui.
Alors finalement, le château va brûler
Alors, au bout de quelques années, alors ça se calme un peu quand même, ces crises. Le château va brûler. Et là, son frère lui achète enfin, avec l'argent.
Avec son argent, oui, elle.
Il lui achète vraiment une demeure pour elle. C'est donc le château de Buchaut, ainsi que le prononcent les Belges, c'est-à-dire Bouchou en français. Et il y adjoint un autre domaine, le domaine de Meiss. Et les deux font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hectares. Et surtout, elle a un entourage, elle a toute une cour qui fait plus de 40 personnes.
Tout ça se situant juste à côté de Laeken.
Alors, c'est aux portes de Laeken. Léopold II, souvent, allait de Laeken, la résidence d'été privée des rois des Belges, et le Buchaut, à pied. C'est dire que ça n'était pas loin.
Donc, et finalement, cette fin de vie ne sera pas si triste qu'on l'a dit, puisqu'elle sera entourée de sa famille. Ses nièces aimeront beaucoup aller la voir et gardent de formidables souvenirs d'elle. Donc, elle s'éteint en 1927. Exactement. À 87 ans.
Oui, pas tout à fait. Elle aurait eu 87 au mois de juin. Ce qu'il faut dire, peut-être pour conclure, c'est que d'abord, elle a eu un très grand médecin qui l'a soignée, qui est le docteur de Smet, qui était un aliéniste confirmé. Et puis, ça l'a beaucoup aidé. Et puis, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est la mort de toute sa génération, ses frères et ses belles-sœurs. Car là, ils avaient eu le tort de la considérer un petit peu trop de nouveau comme une princesse de Belgique. Et elle voulait être impératrice.
Merci beaucoup Dominique Paoli pour ce portrait de Charlotte.
Merci de votre invitation.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'impératrice Charlotte, le soleil noir de la mélancolie, aux éditions Perrin. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir à tous et à toutes.